RMC.
PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, c'est bon.
Jean-Louis Tour.
C'est la deuxième heure de l'after avec Jonathan McCarty, avec Pierre Ducrot, avec Sacha Tavolieri qui est toujours avec nous pour la Belgique. Nous accueillons en plus Philippe Auclair pour l'Angleterre. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir. Salut Philippe.
Fred Hermel pour l'Espagne. Salut Fred.
Hola Chico.
Salut Fred.
Oh, voilà. Simone Rovera pour l'Italie.
Non, je rigole. Ah, c'est terrible.
Oh, le
là, c'est méchant.
Le
là,
oh, là, là, il y a tous les Italiens qui
me détestent. Le truc, c'est que c'est pas bien. C'est que Simone, déjà, elle était pas en grande forme en partir. Elle avait pris du poids, elle avait une bedaine et tout. Là, j'ai l'impression qu'il va se réfugier dans la nourriture, qu'il va revenir.
T'es pas obligé de balancer devant tout le monde qu'il avait pris une bedaine. Il y en a peut-être qu'il l'avait pas vu, tu vois.
Ça se voyait, hein, comme les yeux.
Pas tous. Ceux qui écoutent à la radio ne savent pas déjà.
Non mais Simonet, il passe pas 5 heures par jour dans un gymnase à lever de la fonte. Hein,
exactement.
Soyez pas jaloux les gars, parce que soyez pas jaloux.
Ah bon, on est pas jaloux, on a un métier, c'est différent.
On ira là ensemble, vous allez voir, je vous servirai.
C'est-à-dire que nous on n'écoute pas le podcast, on fait les émissions, donc si tu veux, on peut pas être dans la salle après.
Ouais, je fais les deux.
Alors,
mais
vous connaissez la nouvelle?
Oui.
Pour ceux qui aiment le sport, Yvette Horner est morte. L'accordéoniste du Tour de France.
Ah bon, c'est pas vrai.
Mais quand ouais, c'est pas vrai. Je t'es sûr que toi, Philippe, que tu as cultivé.
C'est bon, c'est vrai.
Ouais,
vient
de tomber, là.
C'est dingue.
Ouais, ça vient de tomber, mais c'est, pour les jeunes, mais je parle comme un vieux con, mais pour les jeunes, il faut voir ce que la légende que représentait cette femme sur le Tour de France qui était patrimoine de notre pays, quand même.
Tu n'es pas un vieux con, Fred. Tu n'es pas un vieux con, sache-le.
Non, il est pas si vieux que ça.
Non.
Oh, Fred, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, Fred.
Écoute, Fred, tu as bien fait.
Non, mais c'est vrai.
C'est tombé, il y a 10 minutes, quoi. T'avais une alerte Google Yvette Horner ou pas?
Vous savez ce qu'elle faisait, Yvette Horner? Elle était sur une traction à l'époque, déjà, je crois. Elle faisait le tour des années 50, etc. Et elle jouait toute la journée.
Mais c'est vrai.
Du tour. Non, mais c'est un truc de malade, quoi. Regardez ça, c'est l'histoire de France.
J'ai pas connu, moi, ça. J'ai passé ce.
Non, moi non plus, mais j'ai,
moi, je me rappelle quand Vinokourov avait fait le bisou, là, c'était mythique. Je crois que c'était quoi? C'était peut-être 2001, 2002, quand il gagne en haut du Mont Ventoux. Enfin bon.
Toi, tu regardes le vélo.
J'aime bien, ouais.
Toi, t'es plein de surprises.
J'aime bien le vélo parce que c'est l'effort.
Je te voyais pas du tout fan de vélo. Ouais.
Bah, c'est le cardio, c'est l'effort, c'est chouette.
Tu te rappelles pas quand il a volé le Liège-Bastogne-Liège en 2013?
J'adore les produits.
Je vous explique.
Le vélo, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a une supériorité du vélo sur tous les autres sports.
Fred, non, pas sur la boxe.
Fred, Jonathan, si tout le monde parle en même temps, si chacun fait sa petite blague, et ben, la blague n'est pas entendue.
C'est vrai.
Donc, c'est problématique.
Pour la mienne, c'est dommage.
Alors, la tienne, c'était quoi, Pierre?
Donc, que Jonathan avait adoré le vélo, parce qu'ils avaient des petits produits en commun qui pouvaient changer.
Oui,
effectivement. Voilà. Voilà. Et moi, j'abondais dans son sens en disant qu'effectivement, il préfère se rappeler de ces victoires-là plutôt que les victoires en 2013 où il a été déchu de son titre à Liège-Bastogne-Liège.
Mais ça, c'est le Belge, fan de vélo, qui nous rappelle.
Voilà. Ça, c'est l'histoire, monsieur.
Alors toi t'aimes bien les dopés évidemment.
Non,
mais c'est dégueulasse de toujours attaquer les cyclistes.
Il s'est fait gauler, mais bon, il est un homme politique important au Kazakhstan.
Fred,
il a une trajectoire
en l'occurrence, lui, il a été un peu pris la main dans le sac.
Mais sa trajectoire après dans la politique et tout, c'est incroyable.
Bien sûr, il y a pas de problème. Alors,
même sur la route, il avait des trajectoires.
Son impact géopolitique pour le Kazakhstan vis-à-vis de l'Asie est incroyable.
Mais quand tu fais les afters d'été, va te greffer à l'intégrale Tour de France et tu peux parler de Vinokourov autant que tu veux. Non, mais moi j'adore les
intégrales. J'ai un peu lâché. Par contre, j'ai un peu lâché.
Cessieux, grandiose.
Avec Christophe Cessieux, effectivement.
Oh là là, quel bonheur.
Ça rythme tous nos mois de juillet à chaque fois.
Il est plus anti-toi, Christophe, en plus, tu sais. T'es devenu un peu gris, Jean-Louis, depuis des semaines. Je te l'ai dit depuis quelques temps, je te sens aigri.
Toi, parce qu'on te chahute un peu, tu dis qu'on est aigri.
Non.
En fait, tu fais trop d'afters. Tu vois, il a plus l'habitude, quoi. Enfin,
Fred, t'apprécies pas 2-3 blagues, je le sais, mais
deux trois blagues, c'est-à-dire, il y a des blagues que j'apprécie dessus, mais non, mais moi, ça fait longtemps que je fais l'after, c'est quoi? Ça fait 12 ans maintenant, non?
Ans. T'es le pilier.
Donc, ça veut dire qu'on en a pris dans la gueule, quoi.
Ah, Sacha n'était pas né d'ailleurs, il y a 12 ans.
Bah,
ouais.
Mais n'importe quoi.
Médiatiquement parlant,
j'ai commencé très tôt.
Vous savez qu'il y a un fil conducteur dans l'after.
Que t'as perdu.
Il va tourner.
Oui,
ça, c'est pas bien, Jean-Louis.
Mais quoi?
Tu dois maintenir tout le monde.
Bah oui,
faire plus de discipline, mais en étant moins aigri.
Mais je ne suis pas aigri, c'est n'importe quoi. Mais bon. Alors, donc je reprends quand même le fil des choses. Il y aura un avis tranché de Jonathan sur la Colombie. Ce sera bien plus intéressant que les 4 dernières minutes qui viennent de passer. Il y aura un avis tranché.
Moi, j'ai rien dit. Hein.
de David Lorto. David Lorto qui déplore Philippe. Le manque de leader en Allemagne. Et je pense qu'on pourra élargir la discussion à toutes vos sélections. Ah,
comment est-ce qu'on dit leader en allemand?
Oh, j'allais la faire, putain, j'étais leader. En train de faire. Oh non, ah, Philippe.
Ça nous ramène à des heures pas très, très claires de notre histoire, tout ça. On va éviter.
Alors là, je vais reprendre tout de suite le fil.
On va le faire
s'il y arrive. Attention. Philippe va nous parler de la relation entre la sélection anglaise et le public et Fred du poste d'avant-centre. Mais avant tout cela, on termine sur la Belgique avec Sacha qui est avec nous et Alex au 32-16 qui est un sympathisant de la Belgique. Salut Alex.
Salut à tout le monde.
Bonsoir Alex. T'es pas belge et t'es pas supporter belge.
Sympathisant.
Non, je m'explique. En fait, je suis franco-congolais.
Ah, bah oui, on voit le lien, voilà. Bien sûr.
Ouais, donc forcément, la Belgique.
Le Congo était pas suffisamment présent, voilà. Le nombre de Congolais qu'il y a dans la sélection belge, bah, ça je suis forcé de.
Ça crée un lien.
Ça fait plaisir.
Voilà, c'est l'histoire coloniale. Ouais. Porter la Belgique.
Absolument.
Bon, donc comment tu vois la sélection? T'as regardé le match, là, aujourd'hui?
Ouais, j'ai suivi le match. Mais si vous voulez, voilà, ça va très très vite, c'est en confiance. Une équipe, je pense qu'ils sont prêts. Mais voilà, moi, mon attention, elle se porte plus sur le banc de touche que sur le terrain. Quand je vois un certain Thierry Henry, comme Sacha l'a très bien dit, je pense que c'est un mec qui met le secteur offensif en confiance. Et on le voit, les mecs devant, ils sont libérés, Hazard s'est libéré, Lukaku s'est libéré, Carrasco, et j'en passe. Mais voilà, moi, il y a un truc qui me tracasse. Comment le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Thierry Henry, comment on peut se passer de lui en équipe de France? Moi, je comprends pas.
Et je pense que l'équipe de France ne lui a rien proposé.
Voilà, ce qu'il dit, justement.
Je pense qu'il n'y a rien qui a été proposé.
Voilà, toi Pierre qui est dans le milieu et qui a peut-être avoir plus de connaissances que nous, mais je veux dire, je comprends pas comment on peut se passer de lui.
Bah, mis à part effectivement que personne n'ait eu l'idée de lui proposer, il a eu des propositions à peu près partout sauf en France.
Ouais. Tu sais, je pense que
j'ai même pas d'arguments qui tiennent, je vais vous dire,
je pense que en fait simplement Didier Deschamps, on sait comment il fonctionne depuis des années, il a sa garde rapprochée, il a ses hommes de confiance, et je pense pas que ce soit le plus ouvert quand il s'agit de
proposer. Non mais s'il vous plaît, et Philippe avec Roberto Martinez, il a une drôle de relation aussi.
C'est vrai.
Oui, de toute façon, avec Roberto Martinez, c'est le numéro 3, on sait bien. Mais il y a une chose très importante.
Ils sont rencontrés en Angleterre et ils ont une relation aussi qui a fait que Martinez lui a proposé.
Voilà, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, puisque Thierry Henry est arrivé dans la sélection belge par Ralf Rangnick, en fait. C'est la connexion Red Bull qui a fait que Thierry Henry a fini par arriver à la sélection belge. Il y a une chose très importante dont il faut tenir compte, c'est que Thierry Henry, en ce moment, est encore salarié de Sky avec un salaire de à peu près de 5 millions d'euros par an. La fédération française ne peut pas s'aligner sur ce genre de salaire. La fédération belge a proposé un poste de troisième adjoint à Titi, qui lui laisse beaucoup beaucoup de temps libre. Il est là pour bosser avec les joueurs et continue, il passe ses badges, tout le tralala. Il ne pourrait pas avoir du tout le même type d'engagement avec l'équipe de France. Et je crois qu'il y a c'est une raison toute bête. Il arrive à la fin de son contrat avec Sky. On va voir si jamais ça va être renouvelé, hein, bien évidemment. Mais c'est un gros problème pour impliquer Titi, je dirais, dans le football français en ce moment.
Sacha.
Philippe, sur la Belgique. On peut simplement rajouter que les 8000 euros qui sont vraiment qui sont symboliques par mois donnés à Thierry Henry sont reversés à des œuvres caritatives. Donc c'est quand même une information à donner.
Il se fait son expérience, c'est tout ce que c'est tout ce qui
l'intéresse. Absolument, il termine ses badges, c'est licence UEFA Pro et compagnie.
Alors et effectivement, l'info que tu nous donnes là, elle est importante parce que c'est compliqué de débaucher un garçon qui gagne 5 millions d'euros par an. Mais moi, je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas des clubs, notamment en France, sans parler de la sélection, mais des clubs qui n'aient pas essayé.
Je pense qu'il c'est un mec qui est quand même extrêmement intelligent. Je pense qu'il est patient et je pense qu'il se fait son expérience. Et je pense que c'est bien plus intelligent pour lui de franchir étape par étape plutôt que d'aller dans un club de Ligue 1 par exemple et de se vautrer parce que ça aurait été trop tôt.
Il aurait pu faire son expérience dans un club de Ligue 1 sans être le coach de l'équipe première.
C'est plus sympa d'aller en sélection, de côtoyer des joueurs.
Je pense pas que ce soit forcément plus sympa. Je pense que c'est plus sur un plan pratique, c'est plus faisable.
D'un point de vue politique et d'un point de vue stratégique aussi pour le futur de sa carrière, c'est une très très belle opportunité pour Thierry Henry.
Non mais c'est sûr. Après c'est une question d'image en fait. On voit un match de la Belgique, on le voit sur le banc, nous Français, on se dit bah c'est bizarre quoi. Enfin, il y a un truc qui
c'est une gestion à l'international. Je me faisais la réflexion tout à l'heure. Il faut savoir que nos slogans sont anglicisés. On a toute une gestion à l'international. Donc on parle beaucoup plus à un public international qu'à un public local.
Et c'est ce qui parfois
a pu fracturer parfois, je dis bien parfois, les supporters.
Ok, tu veux rajouter un truc sur la Belgique?
Non, bah on peut très très bien gagner la Coupe du Monde. Je reviens à mon idée de départ. Donc voilà, on a les qualités pour le faire. On a montré en tout cas qu'on avait des très belles séquences par séquence de jeu. On jouait de manière très très intéressante. Et je pense que si on arrive à former ce fameux bloc collectif, non pas le sens commun, parce que selon moi, d'un point de vue politique et philosophique, c'est impossible. Mais si on arrive à faire à unifier ce groupe, alors on ira très très loin.
Très bien, tu restes avec nous, Sacha. Alex, merci d'être venu au 32-16.
Bah, merci à vous.
Ciao Alex.
Ciao Alex.
À très bientôt.
Ciao Alex.
On enchaîne avec l'Espagne, Jingle Hermel. But d'un Espagnol pour Lens, là c'est...
Ça y est, il faut que je change les draps là. Je l'avais oublié celle-là.
Elle est géniale celle-là, attends.
Moi aussi. Bah, c'est ouais, Christian ouais. Lopez là, non le...
Bah oui, bien sûr. Ouais, ouais.
Très bon joueur.
Fred, tu veux nous parler également d'un attaquant espagnol. Qui va jouer en pointe? Tu as ton idée avec la sélection?
Bah, j'ai surtout une envie. Alors, je vais vous dire, il faut gratter un petit peu pour trouver des débats sur la sélection espagnole. Et ça m'inquiète un petit peu parce que tout le monde est à peu près d'accord. Tout le monde trouve que Lopetegui est super. Il est pas du tout clivant. Julen Lopetegui, le sélectionneur espagnol pour ceux qui ne le connaissent pas. Tout le monde pense que les 23 qu'il a emmenés, il n'y a pas débat, que les équipes qui le 11 qu'il va mettre, de toute façon, quoi qu'il décide, ce sera bien, parce que tout le monde l'aime beaucoup, etc. Mais alors, il y a un petit débat, c'est vrai qu'on a l'idée de 10 sur 11 à peu près, hein, de l'équipe titulaire qui va débuter contre l'équipe du Portugal, en sachant que c'est un groupe hyper difficile avec l'Iran et le Maroc, et malheureux vaincu, quoi. C'est-à-dire, entre le Portugal et l'Espagne, celui qui perd, s'il est perdant dans cette rencontre vendredi soir, ça risque d'être très très compliqué. Ouais. Et surtout, je pense que l'ordre des matchs est très défavorable aussi au Portugal, je pense, à mon avis, hein, parce que ça peut être compliqué pour les amis de Ronaldo. Enfin bref, il faudra marquer et gagner contre l'équipe du Portugal. Et là, il y a un petit doute pour la pointe. Je veux dire, c'est pas récent, hein, parce que on s'est souvent posé des questions en Espagne de savoir qui allait jouer poste de numéro 9. Le chouchou du sélectionneur, c'est Rodrigo. Celui qui a peut-être un éventail le plus grand, et puis celui qui se bat le mieux, le plus compétitif, celui qui met des coups un peu partout et qui fait le sale boulot pour les autres, vous le connaissez, il fait ça à l'Atlético et il faisait un bien monstre à notre Griezmann national, c'est bien entendu Diego Costa. Mais sauf que cette équipe d'Espagne, elle a quand même, même avec le Pedegui, notamment dans les matchs de préparation, on l'a vu après le résultat 1-0 ce samedi contre la Tunisie, un problème pour transformer la domination. C'est-à-dire que ça joue bien, il y a de la possession, il y a des belles phases, mais ça ronronne parfois un petit peu, et ça serait pas assez d'occasion, et ça ne marque pas assez. Et ça peut être un petit souci. Rappelez-vous, en 2010, l'Espagne est championne du monde en étant...
1-0, 1-0, 1-0.
La sélection mm-hmm. qui a marqué le moins de buts dans une phase finale. C'était que ça. Et parfois, tu joues un peu avec le feu. Et il y a un petit joueur comme ça qui aurait pu ne pas venir, hein, si Morata avait finalement été choisi, qui est Iago Aspas, un joueur qui est revenu au Celta Vigo, qui avait fait une aventure à Liverpool qui s'était complètement planté, hein, Philippe,
ouais, on se souvient, ça n'est pas marché,
parce que culturellement, parce que footballistiquement, là, il fait partie de ces joueurs qui sont bien dans un pays, et il est bien en Espagne, il est bien en Galice, et ce que moi j'aime chez Iago Aspas, c'est que, quand il a l'occasion, il se pose pas de questions, il est heureux d'être là, il n'hésite pas, il a un culot monstre, et si j'ai un petit avis tranché à donner, c'est un petit avis, hein, parce que, voilà, ça sera pas un drame si un autre joueur est numéro 9 ce vendredi, mais je pense que Iago Aspas devrait être le numéro 9 et le meilleur atout offensif de cette équipe de l'Espagne face au Portugal.
Ah, il apporte quand même beaucoup de vivacité que les deux autres n'apportent peut-être pas, et beaucoup plus de mobilité. J'ai l'impression qu'il est plus complémentaire avec les milieux de terrain qui sont alignés.
Je trouve aussi. Après, parce que techniquement, voilà, il est très fort.
Diego Costa, on adore tous. Je pense que c'est un joueur qui est au-dessus des deux autres intrinsèquement. Mais après, en termes de complémentarité, je suis pas loin de penser comme toi. C'est vrai.
C'est vrai que tu dis Diego Costa quand t'es en face à Pepe, oui, c'est bien d'avoir Diego Costa, par exemple. Mais moi, j'aime beaucoup ce petit joueur très espagnol qu'est Iago Aspas. Et puis j'insiste, quoi, il se pose pas de questions, il frappe, il tente et des choses. Et c'est la raison pour laquelle il marque. Et c'est lui qui met le but de la victoire contre la Tunisie samedi.
Alors juste ça, c'est ta volonté, Fred, mais au niveau des tendances, des infos, de celui qui
commencera.
Plutôt Rodrigo.
Plutôt Rodrigo.
Ah, d'accord.
Ouais,
okay.
Plutôt Rodrigo. C'est vraiment.
Plutôt Rodrigo que Costa.
Ouais, ouais, parce que c'est-à-dire que c'est Lopetegui, c'est un homme fidèle et il aime beaucoup Rodrigo Moreno, quoi, le joueur de Valence, hein, qui fait une très belle saison, qui
est
l'un des responsables de la réussite de Valence, qui est qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà. Ouais. Parce que si moi je peux vous donner l'équipe déjà qui va jouer, hein,
allez,
si ça vous intéresse. A priori, hein, c'est-à-dire c'est De Gea dans les buts. Il y a un seul doute sur le poste de latéral droit. Carvajal est en retour de blessure, il sera pas prêt. Odriozola, il avait une petite gastro, mais on se dit ici que la solution ce serait Nacho, l'homme à tout faire
à droite
du Real. Oui,
et
parce qu'en face il y aura Cristiano. Bah non, ce serait plutôt de mettre Nacho. C'est la tendance, les infos que sortent les envoyés spéciaux espagnols en Russie.
Aspi,
parce que d'un côté t'as Jordi Alba très offensif. Donc si tu as un latéral droit comme Nacho qui est très défensif, qui est très sérieux face à son coéquipier Ronaldo, ça peut être très
et Aspi pas positif. Du tout. C'est on en parle pas du tout.
Non, pas du, on en parle pas.
C'est
on en parle
bizarre.
Pas. Donc Piqué, Ramos, Jordi Alba, Thiago, Busquets, Iniesta, Silva, Isco et devant sûrement.
Ouais, ça a de la gueule quand même. Hein.
Bah, bien sûr. Ça. Puis des alternatives sur le banc. Vous avez Lucas Vasquez, vous avez Asensio.
Ouais, ouais,
Vous avez
Coquet.
Oui, Coquet, Saúl.
Il y a du monde. Ouais, tu sais encore, c'est encore une sacrée équipe quoi.
Et juste à Spilicueta, je pense qu'il le prend comme défenseur central. Hein.
Ouais, mais il peut. Il est à Marseille.
Parce que sinon, il y a trop d'arrière droit.
Il peut jouer
derrière. Ça fait un moment qu'il joue dans les trois de derrière.
Nacho n'est pas un latéral. Nacho est un défenseur central qui joue aussi pour rendre service latéral gauche ou latéral droit.
C'est un très bon latéral droit.
Mais rappelez-vous, un soir d'after, je vous avais parlé de lui, vous aviez rigolé.
Parce que pas tous, Fred.
Non, je sais. Toi, non, Pierre, parce que toi, tu connais le foot.
Attends, tu nous avais dit que c'était le joueur parfait.
Il a besoin d'être
calmé
un peu, Fred, ce soir.
En tout cas, pas à l'antenne.
Tu avais raison.
Oui, c'est ça, merci, Pierre. C'était le joueur idéal pour n'importe quel entraîneur. Et ben, j'ai déjà préparé mon petit tweet pour vendredi soir, s'il est titulaire contre le Marseille.
Il a mis en brouillon.
Comme tu nous as dit ça dans Team Duga, je suis allé vérifié, tu avais dit c'est le joueur parfait.
Non, mais ici aussi, il avait fait un avis
étranger. C'était ça.
Ah oui. On parle de ça, t'as vu.
Oui, parce qu'il se blessait jamais, il s'est blessé une fois, c'était il y a 3 mois, mais ça va.
Là,
ça
moi, je préfère Aspi. Dans le même profil,
mais,
en plus.
Mais il faut défendre face à Cristiano, et il a l'habitude de défendre contre Cristiano.
Sacha.
Alors, Fred, j'avais une question, qui concerne un des adversaires de l'Espagne en Coupe du Monde. Le Maroc a gagné son dernier match amical face à l'Estonie, 3-1, en jouant extrêmement bien. Ils sont partis, si je ne m'abuse, hier, du côté de, pour se rendre en Russie. Comment est-ce qu'on juge cette équipe du Maroc du côté de l'Espagne? Parce que ça va quand même être
très
un beau
question.
Duel.
Très bonne question. Alors, il faut quand même pas oublier que le Maroc, c'est à côté.
Ouais.
Le sud de l'Espagne, Tanger, c'est 14 kilomètres.
Hein, bien sûr, ouais.
Le détroit de Gibraltar, donc c'est tout près. Alors, je vais pas vous dire qu'on suivait beaucoup la sélection espagnole en tirage au sort, mais depuis le tirage au sort, et on a notamment la chaîne Gol espagnole qui appartient à Mediapro, vous savez, qui seront bientôt en France, qui a une chaîne en clair ici sur la TNT, diffuse les matchs du Maroc, et c'est une équipe qui impressionne pas mal. Après, il y a des joueurs comme Achraf Hakimi, hein, qui est titulaire, qui joue au Real. Vous avez Amrabat qui joue à Leganés. Mm-hmm. Vous avez pas mal de joueurs qui jouent en Liga qu'on connaissait déjà. Mais d'après les commentaires, commentaires généraux ici, c'est attention, c'est pas forcément une équipe qui est là uniquement pour faire de la figuration.
À mon avis, c'est plutôt attention au Portugal plutôt que attention.
Ils ont un bon entraîneur.
Oui, bien sûr.
On a beaucoup
moqué
parce que c'est vrai que c'est un peu gaufré à Lille, mais c'est un super entraîneur.
On l'a moqué à Lille, en Ligue 1, mais avec la sélection africaine.
On l'a pas vraiment moqué en Zambie. Hein,
En France, il y a toujours eu ce petit côté un peu. Il a une belle gueule, il s'est foutu torse nu, il a des SSA.
C'est parce qu'ils ne savent pas.
Il a accompli un miracle absolu avec les sélections africaines.
Super entraîneur.
Oui, moi, je ne peux pas souvenir qu'on l'ait moqué
à part ça.
Non, on l'a pas vraiment moqué.
Ça s'est mal fini quand il est parti de Lille.
Mais culturellement,
oui, mais l'opinion publique et les médias n'ont pas.
Mais vous savez, par rapport à ce groupe, en fait, le calendrier est hyper décisif.
Bien sûr, Fred.
Et on a l'impression qu'il est quand même très défavorable au Portugal, parce que je pense quand même que l'Espagne est supérieure au Portugal, même si il y a Cristiano Ronaldo.
Absolument.
Donc, et moi, quand j'en parle avec mes amis marocains, en fait, tu regardes le premier match. Bon, la logique. Il y a pas de logique dans le commun, enfin bref. L'Espagne bat le Portugal. En même temps, le Maroc
bat
l'Iran.
Attention, l'Espagne... l'Iran, c'est pas mal. Hein.
Non, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Mais voilà, donc la clé, c'est là. Mais si on est dans ce cas de figure-là, le deuxième match, c'est Espagne-Iran, ce qui fait que l'Espagne pourrait déjà être qualifiée première en jouant le dernier match qui serait face au Maroc.
Effectivement.
Et donc, mettre l'équipe...
Fred, Le, pardon, mais le temps passe.
Bien sûr,
malheureusement. Et comme on voulait dire un mot sur le Real quand même, allons-y maintenant. Donc on n'arrive pas à trouver un entraîneur.
Ben c'est incroyable. C'est terrible.
Hein. Demandé à Pierre et tu fais agent d'entraîneur aussi, Pierre.
Non, mais il y avait Vieira, mais il est plus libre, donc c'est fini.
Il paraît que ça va être Mitchell, la blague, quoi.
Non, il y a une info quand même à RMC Sport.
Non, mais la blague, c'est probablement un des pires entraîneurs de l'OM des 10 dernières années qui ferait passer Albert Raymond pour Guardiola à côté.
Non, je pense que tu exagères un petit peu.
Non.
Alors, il faut repasser dans le contexte.
Aujourd'hui, on a sorti une info RMC Sport, Fred, sur Villas-Boas, le Real qui...
Nico Villas, on a parlé. C'est vrai que c'est un entraîneur de taille européenne. Oui. Donc, oui, ça peut être une alternative. Le chouchou, mais Philippe pourra le confirmer, Daniel Levy, le président de Tottenham, veut pas le lâcher, qui s'appelle Pochettino. Le problème, c'est que Daniel Levy, c'est de longues semaines de négociations. Et le Real a besoin d'entraîneur cette semaine.
Il n'y a pas le temps de négocier
avec Daniel Levy. C'est ça le problème, parce que bien sûr que Pochettino veut venir au Real. On se retrouve aujourd'hui avec une sorte de plan B, c'est-à-dire vous avez Guti, c'est Tottenham, c'est impossible. Ouais. Guti, il s'occupe des moins de 19 ans.
C'est trop tôt.
Puis vous avez Guti, moi j'adore Guti, mais enfin Guti c'est quand même quelqu'un qui adore aller en boîte, etc. Et Cristiano, au moment où Guti rentre de boîte, Guti c'est quelqu'un qui en étant que joueur disait je vais pas aller en boîte à 70 ans, je profite de la vie, etc. Quand tu vois par exemple Cristiano, la manière de fonctionner, etc. Je vois pas Guti donner des ordres à Cristiano Guti sera un grand entraîneur parce que c'est bien ce qu'il fait avec les jeunes du Real, mais il a même pas encore entraîné le Castilla.
Il a fait mal Fred. Si Cristiano arrive à l'entraînement avant Guti qui sortira de boîte après.
Il y a Mitchell, non, donc c'est alors, ça.
Il y a deux plans B, Mitchell parce que
voilà, c'est
une légende du Real Madrid. Ben
oui, mais en tant qu'entraîneur c'est une farce.
Oui, mais tu te rends pas compte l'image qu'il a là-bas et le poids qu'il a mis là-bas.
Jean-Louis, toi tu sais parce que t'as vécu ici, c'est un mythe du Real Madrid. C'est la quinta de Buitre, c'est quelqu'un qui va entrer dans le vestiaire, qui connaît tout, il connaît le fonctionnement politique du Real, et ça aussi c'est important. C'est quelqu'un qui va être respecté par les joueurs, c'est quelqu'un qui a entraîné le Castilla, qui a entraîné Séville, qui a entraîné plein de clubs Malaga, même si ça s'est pas bien passé à la fin, il les a sauvés la saison dernière. Et Mitchell est quelqu'un de respecté, donc s'il faut une solution B, un plan B d'urgence, Mitchell il entre. Et moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui parce que je le connais depuis toujours, enfin depuis que je suis à Madrid. Mitchell, il dirait pas non à cette occasion là, donc il a pas encore reçu de proposition, mais si elle arrive. Et l'autre
et
c'est
Laudrup.
Michael Laudrup.
Ça c'est bien. Laudrup,
parce que ça joue bien au foot en plus.
Ouais.
Et Antonio Conte.
Il a joué.
Conte, il a joué au Real, oui.
Il a joué au Real pendant
deux ans. Ouais.
Philippe Barcelone.
Attendez, il y a eu un accent de Sacha Tavolieri qui maîtrise aussi l'italien, donc.
Non, je pense qu'il y a aussi le cas Antonio Conte qui en Italie fait beaucoup parler du côté du Real.
Mais Conte au Real, ça colle pas.
Tiens, 10 minutes.
Philippe, Laudrup, moi je trouvais, enfin, il a quand même fait des belles choses à Swansea. Qu'est-ce qui lui arrivait? Comment ça se fait qu'il soit Qatar?
Il a un mode de gestion assez particulier et c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement très facile d'abord. Qui a une certaine arrogance, on va dire, qui a eu des problèmes à Swansea dus à son mode de gestion du vestiaire en particulier. C'est pas bien passé, mais cela dit, pendant le temps où il était là, il a gagné la League Cup, il fait gagner.
J'essaie de le dire en français. J'essaie de le dire avec l'accent français.
La Coupe de la Ligue. Ouais. Et Swansea jouait très très bien quand il passait là. La question que je me pose également, parce que quand on parle de Michael Laudrup, on parle quand même de l'un des grands joueurs de sa génération,
des plus élégants qu'on ait vu sur Internet.
Magnifique.
Au Real Madrid, ça compte.
C'est ce que j'allais te dire. Il présente bien, il est beau mec, il parle très bien, il veut faire jouer le football que j'imagine les merengues veulent voir. Et c'est également un entraîneur qui, s'il arrivait dans le vestiaire, je pense que les joueurs le regarderont en se disant c'est pas un clown celui-là.
Et pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Guti, qui a l'air de plaire beaucoup, etc. Guti, il a vraiment des qualités d'entraîneur. C'est-à-dire qu'il a une autorité naturelle qui est étonnante quand on a vu le joueur
fantasque
qu'il a été, hein, parce que c'est quand même un immense talent qui a été un peu gâché par
très irrégulier.
très irrégulier, puis sa vie, parce que c'est un mec qui aime la vie.
Il a eu raison, il a profité, attends.
Mais bien sûr, bah oui, non, mais je sais pas, et en plus, il a toujours assumé. Mais je pense qu'aujourd'hui,
c'est difficile de demander ça à ton groupe, enfin, de demander le contraire.
Bien sûr.
C'est pour ça, c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Et Guti, il sera peut-être un jour entraîneur du Real Madrid, mais il faut passer par la case Castilla avant. Et Michel l'a fait. Laudrup a joué deux ans au Real. Il a entraîné Mayor, qu'il entraînait Retafé. Ça jouait bien en foot. Après, le Real va peut-être sortir
un
nom de son chapeau, etc. Il sait faire.
C'est compliqué, mais, en tout cas. Hein.
Un petit lapin blanc.
C'est compliqué parce que c'était pas le temps. Quoi.
Alors Guti, c'est quand même le joueur où il faut se refaire ses compiles YouTube.
Petite talonnade là.
Vous voyez ses plus belles actions.
C'est un magnifique joueur.
Il y a une talonnade à la Corogne.
Exactement,
sur Benzema. Pour le but de Benzema qui est absolument extraordinaire.
On s'en rappelle. Dans un instant, messieurs, on reste là pour l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, la Colombie, les avis tranchés de l'after à 3 jours du début de la Coupe du Monde consacrée à ces différentes sélections. A tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
Jonathan McCarthy, Sacha Tabodiri.
Je vais quitter ce studio.
Tu vas quitter le studio.
Non, j'entends des choses là. J'entends des choses que je peux pas entendre. C'est pas possible.
Je t'embrasse, mon bichon, arrête.
Ah, ça va alors. Même ça, j'ai du mal à l'entendre, tu vois. ça a du mal à passer.
Vous êtes mignon. Philippe Auclair, Fred Hermel également. David Lorto va arriver dans une seconde pour nous parler de l'Allemagne. On y va sur l'Angleterre.
Toujours pas de Simonet.
Non.
Arrêtez, Alex Simonet.
Oh. Arrêtez.
Le pauvre, s'il écoute, ça va.
Vraiment, vous êtes méchant.
En plus, notez quand même notre courage, c'est qu'on fait cette blague quand Daniel n'est pas là. Parce qu'on sait que sinon il nous saute à la gorge.
Simonet là depuis la
début.
Non mais Simonet, celui qui est en vacances, c'est plus 5 kilos, hein. Plus 3%
d'alcool. Mais arrête, ça trouve, il se met en forme justement, il a du temps.
Non, il se met pas.
Non mais arrête.
Il me l'a dit.
Simonet, tu as un corps de rêve, sache pas. Jingle au clair. Philippe, sur la gastronomie, on voulait te baisser ton micro à la base.
Ah oui, j'ai
dit ça, moi. Non, mais il y a des très bons restos à Londres.
Oui, bien
très
sûr.
Très cher, mais très
bon. Bien sûr.
Il y a parfois moins cher qu'à Paris, hein. Je peux vous donner des adresses qui sont de très très bonne qualité.
On attend que tu nous invites surtout. Plutôt que de donner des adresses.
Écoute, c'est un facteur qui peut inviter. On va peut-être faire une... Oui, on va peut-être faire
une délocalisation.
Une note de frais.
Une délocalisation.
Bah oui, pourquoi pas. On pourrait faire l'after dans chaque pays européen.
Attends, Philippe peut faire à la cuisine lui-même.
Aussi. Ah, et nous faire un petit concert
absolument.
En plus.
Donc voilà. Absolument.
Voilà.
Ça coûte très très cher par contre.
Moi je...
Sacha aussi peut nous faire des concerts.
Je suis comme Philippe Auclair qui est un très grand artiste. Je l'ai appris dernièrement.
Bah, bien sûr.
Et voilà, je tiens à afficher ma solidarité artistique avec un grand monsieur comme Philippe Auclair.
C'est
voilà.
Beau. Bravo.
Bah, oui. Je t'embrasse.
Et Philippe, tu vas nous parler quoi du retour de Tyson Fury de...
Non, parce que c'était quand même
c'était
le retour. Il a boxé contre un sac de patates, quoi.
Un mec qui est de catégorie en dessous de poids aussi, c'est ça qui est un peu.
Ouais, absolument. Un cruiserweight, je sais pas comment dire en français, mais bon, bref.
C'est ça.
Cruiserweight. Bon.
Non, on va parler.
on va essayer de parler un peu de football, mais en fait, on se posait la question aujourd'hui, avoir un avis tranché sur l'équipe d'Angleterre. C'est pas évident parce qu'en fait, il se passe tellement peu de choses autour de l'équipe d'Angleterre, c'est nouveau, mais ça montre que l'équipe d'Angleterre est en train de réussir son premier pari. Vous allez dire que le tournoi est même pas commencé, donc si ça se trouve, on tiendra un discours complètement différent après le match contre Panama ou contre la Tunisie. Mais le but de Gareth Southgate est véritablement de faire en sorte que cette équipe, cette sélection anglaise, qui a tellement déçu lors des tournois récents, souvenez-vous à la Coupe du Monde au Brésil, souvenez-vous surtout la défaite contre l'Islande, elle est en train de vivre ce que j'appellerais un petit peu l'équivalent de son post Naesna. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le public anglais retombe amoureux de son équipe, et le pari est en train d'être réussi grâce à Gareth Southgate, qui est de plus en plus impressionnant dans la façon dont il prépare cette équipe. Alors on verra ce que ça va donner sur le terrain. Dans les matchs amicaux, je pense que vous avez dû la voir, cette équipe d'Angleterre, c'est séduisant. Ça ose, ça prend des risques, c'est jeune, ça a du rythme, ça gagne. Et ça gagne plutôt bien. Mais je dirais qu'encore plus important que cela, c'est l'atmosphère autour de l'équipe qui est complètement changée. On a vu une chose assez incroyable la semaine dernière. La presse a été invitée à venir rendre visite à l'équipe d'Angleterre avant qu'elle s'en aille pour la Russie. Ils sont maintenant arrivés à leur base qui est près de Saint-Pétersbourg. Tous les joueurs de l'équipe d'Angleterre étaient là. Il y a eu une espèce de free for all, c'est-à-dire que c'était une salle, tout le monde était ouvert, tout le monde pouvait parler avec tout le monde. Les joueurs étaient là à parler avec les journalistes en liberté complète, sans les estrades, les micros, les machins, les trucs. Et tu avais... Ouais, le protocole avait été, un autre protocole avait été mis en place, qui était le protocole d'autrefois, qui est un protocole beaucoup plus lâche, beaucoup plus fluide, beaucoup plus humain, je dirais, et qui a été très apprécié par les joueurs, par l'encadrement de l'Angleterre, également par les journalistes. Et du coup, tu as un changement de ton, je pense, dans les médias vis-à-vis de l'équipe d'Angleterre, mis à part ce que fait le Sun, infamerie raciste, sur Raheem Sterling, l'atmosphère autour, elle n'est pas optimiste au sens on va aller en finale, on va gagner. Elle est optimiste en ce sens que elle se dit c'est une équipe d'Angleterre qui nous ressemble, c'est une équipe d'Angleterre qui va faire bon supporter.
Ouais. Et Philippe,
et ça c'est vachement important, tu vois, bah quand tu vas dans un tournoi, que tu sens que tu as le pays derrière toi.
La question que j'ai, c'est j'ai l'impression, alors je suis à me dire si je me trompe pas, que quel est l'objectif de cette équipe d'Angleterre, et est-ce que c'est pas une équipe qui justement, avec cet entraîneur, ce sélectionneur qui est très jeune, ces joueurs qui sont talentueux mais qui sont eux aussi très jeunes, c'est pas, enfin voilà, c'est on prépare en quelque sorte un nouveau cycle et cette Coupe du Monde est juste une étape.
Oui, c'est étape vers 2022. C'est la troisième équipe la plus jeune de l'histoire de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Les cadres, surtout en attaque, sont des joueurs extrêmement jeunes. Que ce soit Kane, Sterling, Ali, Lingard, enfin Lingard un petit peu moins, mais Rashford qui n'a que 19 ans. Donc c'est un petit peu pour le tournoi d'après, mais sait-on jamais. Si tu veux, moi quand je regarde, je voudrais vous demander votre avis, parce que nous d'Angleterre, on voit comme tout le monde trois équipes qui se détachent.
Oui. Bon,
c'est l'Espagne, le Brésil et l'Allemagne. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mmh. Je pense que c'est universel. Derrière, en Angleterre, on voit la France, un petit peu la Belgique.
Mmh. En Belgique, on voit aussi la France
beaucoup plus loin. Et alors que moi j'ai l'impression que, bien qu'étant en Angleterre, si je me place un petit peu en dehors et que je regarde quels sont les outsiders en dehors des trois que l'on a cités, je vois l'Angleterre parmi ces outsiders pour moi.
Ah, il y a différents niveaux.
En finale, hein.
Il y a différents niveaux, Philippe. Mais je pense que derrière les trois, il y a un groupe d'outsiders avec la France, avec la Belgique, avec la Colombie, avec l'Argentine, avec l'Uruguay.
Oui, avec l'Argentine, bien sûr, oui.
J'en oublie peut-être,
et
les Anglais sont le groupe
de la Croatie qui peut également
aussi, oui.
Casser les pieds.
Mais je pense que les Anglais sont juste derrière.
Par contre, Philippe, je trouve qu'il y a une osmose et il y a une dans l'intensité de jeu, on ressent quelque chose de très fort au sein de cette équipe. Moi, je l'ai bien ressenti face au Nigeria. Il y a un rythme, les joueurs aiment jouer ensemble, ils se comprennent extrêmement bien.
C'est
vivifiant. En fait, à voir jouer, c'est super agréable, quoi. C'est une des seules équipes vraiment une équipe nationale où je me suis pas un petit peu assoupi. J'ai regardé les 90 minutes avec grand intérêt et grande passion. C'était très très intéressant ce qu'ils proposent.
Et ce qu'ils ont fait contre Costa Rica également, c'était très chouette avec une équipe B.
Ouais.
Alors encore une fois, moi je dis on va tempérer les enthousiasmes. C'est pas une très très grande équipe d'Angleterre. Il y a des lacunes. Il y a peut-être pas de grands demi-défensifs. La défense,
c'est
défense
mal.
À 3. Non, Ederson, c'est bien. Attends, oui, on parle du capitaine de l'équipe qui a joué la finale de la Ligue des Champions, rien. Et même Eric Dier, c'est pas rien non plus. Et la défense, Kyle Walker, pour moi, c'est un des meilleurs arrières en Europe. Nous en parlerons mercredi soir, d'ailleurs. Au passage, faisons un petit peu de pub, les gars. Hein. Mercredi soir,
a little bit of teasing.
La fameuse soirée des chapeaux.
Ah oui, parce que je me fais disputer parce que je les ai annoncés la semaine dernière. Finalement, c'est mercredi là.
Voilà. Le sombrero.
C'est ce mercredi qui vient et j'aurai l'occasion de parler de Kyle Walker, mais je pense pas que ce soit une surprise si jamais Kyle Walker est dans un de mes chapeaux supérieurs. Mais il y a malgré tout des petites déficiences, si ce n'est des carences dans cette équipe. On verra ce que ça va donner en Russie, mais tu as raison. Il y a une ambiance très positive et très fraîche. Et c'est pour ça que je te dis que l'ambition, au-delà, si tu arrives en quart de finale, ça sera contre rempli, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Mais l'ambition, c'est surtout, on veut que les gens nous soutiennent et que quand on revient au pays, les gens se diront, bravo, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et franchement, l'atmosphère fait plaisir à vivre. Autant l'Angleterre est un pays où il est compliqué de vivre en ce moment à beaucoup d'égards quand vous êtes un étranger, je peux vous le garantir. Autant l'atmosphère qui entoure l'équipe d'Angleterre est complètement différente. C'est une atmosphère jeune, vive, fraîche, ouverte.
Ça, c'est bon signe.
Ok. Exactement.
Bon, merci. Écoute, on verra si ça se vérifie sur le terrain et,
on verra.
Sur la relation avec le public pendant la Coupe du Monde. On revient dans un instant.
Et on est très jaloux au passage que Patrick Vieira, que nous adorons ici, s'en aille à l'EGC10.
Mais c'est pour vieux revenir,
voilà,
hein, tu sais.
City plus tard.
Mais je sais, mais on est un petit peu jaloux parce qu'on l'adore tellement ici que bon.
Ah, très bien. Il manque des leaders en Allemagne. C'est ce que va nous dire David Lorto dans son
dernier point un peu. David, là.
Mais est-ce qu'il y a un projet?
Il nous en parlera tout à l'heure. Et puis la Croyac, une des attractions de la Coupe du Monde, ce sera la vitre tranchée de Jonathan McCarty. Et puis cadeau tout de suite dans l'after. On vous offre votre Google Home pour profiter de votre smartphone à distance en restant dans votre canapé. Bah, regarde sur ton téléphone, Jonathan, ce qui est une Google Home, et tu comprendras que c'est un super cadeau.
Quand tu connais pas un mot, tu lui dis, trouve la définition, par exemple.
Pour tenter de gagner ça, vous envoyez tout de suite RMC au 732-16. Bonne chance à vous et à tout de suite dans l'after.
RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
C'est la dernière partie de l'After. Pierre Ducrot, Jonathan McCarty, Sacha Tavolieri, Philippe Auclair, Fred Hermel et bientôt David Lorto qui est en train de peaufiner son avis tranché. D'ici là, on enchaîne avec l'un deuxième jingle McCarty.
Quitte à résister aux objurgations des esprits chafouins.
Objurgation, nom féminin, vivre montrance en particulier pour détourner quelqu'un de ses projets.
Là, j'ai tout compris.
On a mis une variante, hein, vous avez compris. Hein.
Ça, c'est... Non, Captain Obvious.
Objurgation.
Oui, oui. Non, mais il y en a un par avis tranché. Hein, vous aurez compris le système. On a eu Uchronie tout à l'heure.
On a eu Sérendipité.
Sérendipité.
C'est pas systématique.
Oui,
c'est
mais Sérendipité, là, ça, non, ça va pas du tout. C'est dans le dictionnaire maintenant, ça?
Oui, oui, c'est dans le dictionnaire.
C'est un anglicisme.
Je sais, mais c'est dans le dictionnaire.
Non, mais on apprend des mots grâce à Jonathan. C'est ça qui est sympa.
Est-ce que tu connais l'origine du mot Sérendipité?
Bah, c'est en anglais. Et c'est par rapport au Sri Lanka.
Absolument, c'est Sri Lanka.
Voilà.
C'est beau,
ça c'est
beau.
D'accord. Et je crois que là même la base étymologique c'est du sanskrit. Mais bon.
C'est du quoi?
Peu importe. On n'a pas le temps.
Non, mais
parlons de football.
On
arrive au sanskrit des mecs. Hein. Alors la Colombie, c'est un très grand after ce soir.
La Colombie, c'est l'attraction de la Coupe du Monde.
Ça sera une des belles équipes à suivre pendant cette Coupe du Monde là. Moi je pense qu'il faut passer en fait aux deux derniers matchs amicaux assez poussifs des Cafeteros. Je pense que ça sera encore un outsider qui va être dangereux. Donc alors la Colombie, ben on a vu, ça sort d'une phase de qualification qui a somme toute été assez tranquille, sauf sur la fin où il y a eu 3 nuls et une défaite qui ont un petit peu noirci le tableau. Mais où Pekerman a une nouvelle fois su tirer le meilleur parti de son groupe maintenant, notamment en maintenant le cap quand il y a eu des espèces de petites tempêtes à droite à gauche, notamment le scandale sexuel qui a inclus Edwin Cardona. On voit qu'avec Pekerman en fait, il y a rien qui peut arriver, tout est sous contrôle et le groupe vit vraiment d'une manière en osmose derrière ce coach qui est vraiment à la fois pour eux un super entraîneur, à la fois une sorte de figure paternelle. Alors quand on parle de la Colombie, si j'insiste sur Pekerman, c'est parce que je pense que c'est l'atout numéro un de cette sélection là. Quand on parle des Cafeteros, qui ont des individualités qui sont brillantes à chaque ligne, c'est inévitable, c'est comme avec l'Uruguay, quand on parle de l'Uruguay, on parle de Tabarez, ben on l'a, à Colombie, on parle de Pekerman, qui est là depuis 2012 et qui a enchaîné quart de finale en Coupe du Monde, qui a enchaîné avec une troisième place en Copa América Centenario et qui a requalifié la Colombie assez facilement pour cette Coupe du Monde-là. Alors, à l'instar de ce qu'il avait fait jadis avec l'Argentine en faisant éclore les Redondo, les Riquelme, les Cambiaso, ben cet enchaîne, notre ami ancien chauffeur de taxi, il est en train de faire la même chose avec la Colombie. T'as les stars, t'as les Ramest et t'as les Falcao, mais aussi t'as à la fois, ben t'as tous ces petits jeunes qui sont en train d'éclore et qui accompagnent les étoiles de la sélection et qui accompagnent les tauliers que sont les Ospina et les Carlos Sanchez. Donc je pense vraiment que si la Colombie, on en parle en bien comme ça à l'aube de cette Coupe du Monde là, si la Colombie s'est redevenue une valeur sûre sur le continent sud-américain, c'est en grande partie grâce à Pekerman.
Non, l'incertitude, est-ce que ça va pas être le niveau de Falcao? Parce que Falcao, les 6 derniers mois, ils sont pas bons. Alors il avait peut-être la tête à la Coupe du Monde.
Il y a des solutions.
Quoi qu'il arrive, ce sera l'avant-centre.
Ça sera l'avant-centre, mais il y a des solutions. Parce que j'allais en venir sur ce qui se passe sur le terrain. Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on a une équipe qui est, par exemple, loin du style, on va dire, de ce que proposait le Pérou ou l'Uruguay, qui sont dans une espèce de furia, dans un jeu très défensif, qui ça va très vite dans les phases de transition. La Colombie, c'est une équipe qui est très à l'aise avec le ballon, qui pratique une sorte de toqué. C'est une équipe qui arrive à dicter le rythme du match, qui arrive aussi à endormir un petit peu l'équipe et à les piquer en contre. Et c'est une équipe qui a aussi plusieurs systèmes de jeu, plusieurs cordes à son arc. Donc on voit là une composition qui est une des compositions possibles.
C'est un 4-2-3-1.
Ça peut être un 4-2-3-1 avec Ramés Rodriguez et Cuadrado et Muriel plutôt qu'Uribe sur les côtés et Falcao devant. Ça peut être un 4-4-2 avec deux meneurs de jeu excentrés que sont Ramés et Cuadrado une doublette Falcao-Muriel. Il y a beaucoup de variations qui sont possibles et là on a vu notamment face à l'Égypte que Pekerman s'était même laissé la fantaisie d'essayer une équipe vachement défensive avec un milieu à trois hyper solide avec Uribe, avec Sanchez, avec Aguilar, avec voilà, on est en passant en revue ces milieux de terrain. Donc pour conclure, On va pas dire que la Colombie ça fait partie des favoris de ce mondial là. C'est quand même un voire deux crans en dessous par rapport au Brésil, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Espagne. Même si la Colombie a fait, je le rappelle, un très beau match nul à domicile contre le Brésil. Mais c'est une de ces équipes là qui a quand même des stars, des bons joueurs à chaque ligne, qui a des jeunes avec beaucoup de potentiel et qui pratique du beau jeu. Qu'est-ce qu'on demande de plus à une équipe qu'on va regarder à la Coupe du Monde?
Je sais pas, mais en tout question,
cas, moi, j'attends de les voir.
Oui, Fred? Je me pose une question par rapport à James, parce que c'est quand même un mystère, ce joueur. C'est l'un des plus talentueux de sa génération. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais c'est quelqu'un qui est en train de gâcher son talent parce qu'il n'a pas le...
C'est l'hygiène de vie.
L'hygiène de vie, puis il a pas le travail au quotidien. Voilà, c'est quand il était au Real, il était le plus mauvais à l'entraînement.
Fred,
c'est une réalité.
Je pense
et ça,
que...
Alors après, est-ce que sur une compétition courte avec oui, une vraie motivation, il peut pas être.
Il y a deux choses.
Il peut pas être extraordinaire. Voilà. Après, sur toute une saison, c'est compliqué parce qu'il aime pas bosser.
Il y a deux choses. Alors, c'est dommage que David soit pas là parce qu'il aurait pu nous
parler.
Ah,
il est là, David.
Ah,
David. Bonsoir, David. David Lorto.
Allô,
Fondue,
salut.
Allô, salut David.
Salut
à tous.
Salut.
J'allais t'interpeller David en te disant que j'avais l'impression que James, ça se passait pas mal au Bayern.
Ben oui.
Et parce que
oui,
voilà.
Oui, d'autant plus je peux faire très vite, très simple sur James, c'est que en fait, il a été valorisé avec la fin de saison du Bayern, puisque il a pris un peu les clés de la maison, il a un peu organisé le jeu et finalement il s'est imposé sur le terrain. Je parle bien de la dimension du terrain. Il s'est imposé sur le terrain comme leader technique et oui, effectivement, de ce point de vue-là, il n'y a rien à lui reprocher.
Ça va totalement dans le sens de ce que je voulais te répondre, Fred. C'est qu'en fait, je pense que James, ce dont il a besoin, d'être encadré, d'avoir beaucoup d'amour. Et je pense qu'il a réussi à trouver ce cadre-là au Bayern Munich avec Henkes, qui est quand même un entraîneur qui est, voilà, on le connaît. Je pense le style de Henkes convient à James. Et surtout, ce qu'il a avec la Colombie et ce qui fait qu'il est bon à chaque fois avec la Colombie, c'est que Pekerman, c'est un vrai père pour lui. Et il a ce côté vraiment cadré, voilà. Donc moi j'y crois. Alors c'est vrai que dans certains clubs, tu l'as vu au Real, ça s'est pas très bien passé.
Non, mais
parce
c'est sur la longueur. C'est quelqu'un qui ne travaille pas au quotidien.
J'ai l'impression qu'il a les entraîneurs qu'il lui faut en tout cas.
Bon, voilà sur la Colombie, peut-être une des surprises. Et quoi qu'il arrive, des joueurs qu'on a envie de voir.
Et puis
après, il y a des joueurs qui sont des joueurs d'entraînement aussi. Je dirais Eden Hazard n'est pas un joueur d'entraînement, c'est un excellent joueur de match.
On le
sait. Juste un petit bisou à Jérôme Thomas.
Oui, un bisou à Jérôme Thomas.
Parce que Juan Quintero est dans la liste. Et puis selon les schémas, il pourra jouer.
Bien les noms.
C'est vrai, excuse-moi. Ouais.
L'ancien René, oui.
L'ancien René qui était en surpoids et qui est revenu.
Mais oui, mais qui est un joueur formidable. Ça
Roland nous le disait, il est gros.
Oui, c'est ça. C'est oui. Je m'en rappelle plus de sa formule,
c'était
mais
pas mal.
Il était très bon.
Non,
il avait une petite blague avec lui, c'était génial. Bon, on y va. David Lorto est là. Jingle Lorto.
Ça va, on se calme.
Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Et là, tu piques un débat français. Il manque des leaders en Allemagne.
Exactement, parce que à force d'entendre parler des inquiétudes autour de la Mannschaft, parce que il y a eu 4 matchs, 5 matchs même, sans succès consécutif avant la poussive victoire contre l'Arabie Saoudite ce week-end. Moi qui étais plutôt sur la logique, ça va bien, il y a des champions du monde en titre, on va trouver la solution en Allemagne, parce qu'on a réussi le mix entre les anciens et les modernes. Ça, j'en ai parlé régulièrement au cours des derniers afters. À force de voir les petites inquiétudes, les petites insuffisances qui s'accumulent quand même côté allemand, on pourrait en citer quelques-unes. Je suis preneur évidemment de réactions aussi des confrères, mais je me suis dit que peut-être le problème principal, c'était que si on reprend les faits, en 2014, l'Allemagne est championne du monde. Philipp Lahm s'en va, le capitaine. Per Mertesacker s'en va. Alors on se moque de son niveau de jeu, non, pas de problème. Mais n'empêche que lorsqu'il était en dehors du terrain, il savait ouvrir sa...
Faut regarder le documentaire là, qui est extraordinaire là.
De temps en temps, voilà. Exactement. Ça fait deux. Bastian Schweinsteiger, qui est le guerrier de la finale, s'en va lui aussi. Miroslav Klose, qui est l'avant-centre historique, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors certes, sur X Coupe du Monde, mais c'est le meilleur buteur quand même. S'en va lui aussi. Ça fait 4. Joueurs essentiels, des leaders, chacun dans son genre, qui sont partis. Et aujourd'hui, il me semble que l'un des dangers qui pourrait menacer la Mannschaft dans la conquête du deuxième titre consécutif, puisque c'est l'objectif affiché, affirmé dans la communication et dans par la voix des principaux interlocuteurs, peut-être le danger principal, c'est le manque de leaders. Le capitaine Manuel Neuer, qui a été réintroduit capitaine dès son retour, il n'a pas joué, on le sait, quasiment depuis le mois de septembre. Ça fait un capitaine légitime parce qu'il a un passif, un passé, entre guillemets, mais aujourd'hui, il faut se réimposer instantanément. Ça fait un petit souci. Bon, ça fait un leader potentiel qui est éventuellement qu'on peut remettre en question. Thomas Müller, qui a été son capitaine remplaçant, son vice-capitaine. Ok, c'est un joueur essentiel, on connaît ses qualités individuelles, singulières, inédites. Je suis pas sûr que ça soit un taulier dans le sens Effenberg, Oliver Kahn, Matthäus et d'autres. Mats Hummels, qui arrive à ouvrir un peu lui aussi son caquet sur des sujets essentiels. Je suis pas sûr que lui non plus ce soit un leader. C'est un beau gosse, c'est un joueur reconnu sur son niveau de football, mais je crois pas que ce soit un taulier du vestiaire. Jérôme Boateng était récemment blessé.
C'est pas non plus
un leader.
C'est pas le profil psychologique.
Voilà. Au milieu de terrain.
Kedira quand même.
Alors voilà, il y a Kedira, mais lui aussi est plutôt un joueur.
Je vais pas dire
introverti parce que ce serait excessif, mais c'est pas le remplaçant de Schweinsteiger, c'est pas le leader naturel.
Non, c'est vrai.
Il a son vécu, il a joué dans les plus grands clubs, mais c'est pas ce qu'on appellerait un taulier, un leader. En attaque, Timo Werner est tout jeune, mais Mario Gomez est bien content d'être là, buteur de Stuttgart, mais c'est pareil, c'est pas un leader non plus. Marco Reus va être peut-être la valeur ajoutée de l'équipe nationale pour ce mondial, mais c'est un super joueur, là non plus, c'est pas un leader. Peut-être que le problème principal, et là ça nous demande à nous un peu de recul, un peu de culture sur les Coupes du Monde passées, il y a besoin... Rappelez-vous, on n'a pas besoin de revenir en 54 et en 74 quand l'Allemagne a gagné ses deux premiers titres. En 90, clairement, vous avez Matthäus qui soulève la coupe. Ben oui, il s'impose. Vous avez Andreas Bremeux qui marque le pénalty en finale contre l'Argentine. Ben oui, il s'est imposé. En 2014, c'est pareil, on les a cités à l'instant. Ouais. Schweinsteiger s'est imposé par sa prestation en finale. Et là, aujourd'hui... lorsqu'il y a eu ce petit souci avec Gundogan et Özil, avec leur visite lorsqu'ils ont rendu visite au président turc, la communication derrière a été brouillée. Angela Merkel s'en est mêlée, la chancelière. Oliver Bierhoff, le manager de cette équipe, a dit bon maintenant ça suffit. Ça voulait dire qu'il maîtrisait pas parfaitement la communication de l'équipe. Voilà, c'est peut-être le défaut principal. Je sais que les inquiétudes sont sur le terrain parce que les matchs amicaux n'ont pas été brillants.
Ouais,
mais ça, à la limite, l'équipe nationale d'Allemagne, elle a l'habitude de ces matchs amicaux poussifs. Le leader, le taulier...
Globalement, David, mais il y a de moins en moins de leaders en général, non? Dans le profil que tu décris.
D'une manière générale, oui.
Tu veux dire en Allemagne ou... Non, partout, dans le foot, globalement. Bah, j'ai l'impression que ce débat peut être... appliqué à d'autres endroits sans problème.
Espagne,
il n'y a pas de Sergio Ramos.
Sergio Ramos, c'est le leader ultime. C'est synonyme dans le dictionnaire.
T'es dans un pays où...
En Angleterre, Philippe?
Non, il n'y en a pas, mais c'est une équipe qui est jeune.
Angleterre, Belgique...
Allemagne,
Belgique, t'en as un, c'est Vincent Kompany. Attends, arrête.
Ça reste encore à prouver, mon cher ami. Je sais pas si c'est un leader. Et oui, pour le groupe, il est respecté. C'est un Captain America à l'image.
Moi, je pense qu'il faut faire le deuil.
Netflix, quoi. C'est pas vraiment un patron.
Reste 30 secondes, malheureusement. Ce débat est excellent sur la disparition des leaders dans le foot en général. Mais on le fera une autre fois. Bah, du coup,
parce qu'il
y en a dans l'équipe du Pérou. Tapia, je peux vous garantir que c'est un leader.
Tapia, Yotun, Guerrero. Ils ont des leaders,
Bon, bah, très bien. Alors, le Pérou a des leaders. Merci. C'est normal, c'est dans ça,
mais
c'est
pas mieux. Non, mais Fred, non, le synonyme.
Merci, Philippe.
À mercredi pour les chapeaux, bien sûr.
Jonathan, merci.
Au revoir, Jean-Louis.
After pendant 2 heures toute la semaine, bien sûr, et début de la Coupe du Monde jeudi. Ciao.
Bonne soirée, Jean-Louis.
Merci, Jonathan.
RMC, le super football show, l'After Food.